9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé, on en prend soin de votre santé tous les jours entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et on a une heure pour en parler. Aujourd'hui, le docteur Réginald Allouche est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Alors on va parler d'un autre livre aujourd'hui que vous allez montrer à la caméra qui s'appelle Le plaisir du sucre au risque du prédiabète. Un livre que vous avez sorti il y a quelques années chez Odile Jacob. Le docteur Allouche, donc regardé par des millions de personnes sur la chaîne YouTube, on peut le dire, sans exagérer.
Merci,
en relisant votre livre, j'ai vu quelque chose que je n'ai lu nulle part, c'est que le diabète de type 2, c'est une décision du cerveau.
Oui, alors ça c'est effectivement une théorie, c'est qu'au fond...
Vous n'êtes pas nombreux à le dire ça.
C'est qu'à un moment, si vous voulez, en fait, le diabète, qu'est-ce que c'est ? Le diabète... C'est pas une maladie où tout va mal, c'est une maladie où votre corps va répondre à une agression, c'est-à-dire le fait de manger un peu trop et puis de pas faire d'exercice, mais il va réagir. Alors d'un côté, il va résister au sucre et il va résister au métabolisme du sucre, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et de l'autre côté, bah vous avez plus assez d'insuline pour faire le job. Voilà, c'est ça le diabète, c'est une unbalance.
Mais le cerveau, il est pas addict au sucre finalement. Est-ce que le cerveau ne va pas assouvir un de ses péchés mignons, c'est-à-dire manger du sucre parce qu'il aime ça.
Alors, c'est une autre question qui est extrêmement importante, c'est que le sucre, lorsque vous avez du sucre sur la langue...
Le goût sucré,
eh bien à ce moment-là, ça va sécréter dans un noyau qui s'appelle le noyau de la récompense, le noyau accumbens, ça va sécréter de la dopamine, une hormone de plaisir. Et le cerveau, il n'y a qu'une chose qu'il aime, c'est le plaisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que...
Est-ce qu'il choisit pas à un moment donné de se faire plaisir au détriment d'autre chose ?
Mais bien sûr que si, parler aux fumeurs. Tous les fumeurs savent qu'en fumant, ils se font du mal. Mais ils peuvent pas s'en empêcher, parce qu'à un moment, il y a un côté addictif. Et c'est très important, ce point. Il faut savoir rester dans le plaisir et pas entrer dans l'addiction. Dès qu'on rentre dans l'addiction, on devient esclave de cette addiction. Et il faut, à ce moment-là, prendre des mesures extrêmement énergiques pour s'en sortir. Le cerveau, si vous voulez, lui, il a besoin de cette dopamine parce qu'il aime ça, il aime baigner dans le plaisir. Et donc, quand vous prenez du sucre qui va sur le bout de la langue, eh ben, il y a des capteurs qui vont mesurer ce goût sucré. Parce que ces capteurs sont sensibles au salé, sucré, amer, acide, et à ce qu'on appelle l'umami en japonais, le délicieux. Et à ce moment-là, ça va interagir sur le centre de la récompense qui fait de la dopamine. Tout le monde est content. Le cerveau conscient, c'est-à-dire le cortex frontal, et surtout le cerveau archaïque, qui est le tronc cérébral. Et en fait, voilà, ça c'est « je mange du sucre ». Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que quand vous êtes bébé et que vous tétez le sein de votre mère, le lait est légèrement, très légèrement sucré. S'il était acide, si vous donnez le biberon d'ailleurs, ou le sein à un enfant et que le lait sort acide, pour le bébé, on est codé comme ça, ça veut dire bactéries. Parce que quand il y a des bactéries, quand il y a une infection, le lait est acide. Donc le bébé va faire une grimace et va refuser. Donc c'est des systèmes de survie pour le bébé, parce que s'il boit du lait infecté, à ce moment-là, il est malade. Donc le sucre est toujours assimilé à la mère, au lait maternel, au premier plaisir. Et donc c'est pour ça que le sucre, c'est presque une drogue avec lequel il faut jouer. On en a besoin, on en a envie. Il faut pas en abuser, il faut pas devenir addictif. Et donc la décision du cerveau, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment, quand vous grossissez, alors le fait de grossir, c'est génétique. Vous avez des gens qui sont pas très gros, qui sont fins, souvent des hommes, et puis qui deviennent diabétiques. On se dit mais c'est pas normal, le type il est pas gros, il a.
Mais ils sont peut-être bien un petit peu gros de quelque part.
Non, c'est qu'en fait, génétiquement, ils ne peuvent plus faire de stockage. L'homme, vous avez par exemple des gens obèses de 180 kilos qui ne sont pas diabétiques. C'est rare, mais ça existe. C'est-à-dire que c'est des gens, plus ils mangent, plus ils stockent. C'est comme si vous avez une usine de boulons. Vous avez une usine de boulons, vous faites du boulon, puis vous ne les vendez pas. Vous ne les utilisez pas. En gros, vous ne faites pas de sport, mais vous n'utilisez pas vos boulons. Alors, si vous avez des stockages infinis, vous pouvez en faire des boulons, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une usine avec des stocks finis, vous ne pouvez pas agrandir, qu'est-ce que va dire le contremaître ? Il va dire, les stocks, mettez-les dans les couloirs. Les mettre dans les couloirs, c'est ce qui se passe dans vos artères. C'est-à-dire que le sucre va rester dans les artères. Et à ce moment-là, vous avez le diabète qui démarre.
Alors, on va appeler un chat ce matin, docteur Alouche. On parle toujours des différents types de diabète, mais rarement du prédiabète. D'ailleurs, le prédiabète, c'est pas défini comme une maladie.
Eh oui, mais c'est le diabète phase zéro. Moi, je l'appelle phase zéro. Mmh. Parce qu'en fait.
C'est quoi? C'est un entre-deux? C'est.
Ah oui, c'est une zone grise. Mmh. Et vraiment, vraiment, je suis content d'être ici et de le dire à nos auditeurs. Si vous êtes prédiabétique, occupez-vous-en. Parce que c'est réversible au stade de prédiabète. Alors, qu'est-ce que le prédiabète? Le prédiabète, c'est, vous savez, quand on mesure le. Vous avez un taux de sucre circulant dans le sang, de base. Parce que si vous n'avez pas de sucre dans le sang, de glucose dans le sang, eh bien, votre cerveau n'est plus alimenté. Parce que l'aliment du cerveau, c'est le glucose. Toute notre tube digestif, c'est-à-dire les 5 mètres de grêle, le côlon, l'estomac, tout ça, c'est fait pour transformer tout ce que vous mangez en glucose pour le cerveau et vos muscles, voire chasser pour pouvoir, voilà, parce qu'on est quand même les enfants du néolithique. Hein. On n'a pas vraiment beaucoup changé dans nos réactions, on peut le voir tous les jours. Et donc, en fait, ce sucre, il est très très important d'être régulé. Et qui le régule? C'est le grand général, comme disent les Chinois, c'est le foie. C'est le foie qui régule le taux de glycémie. Votre taux de glycémie, il est compris entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre.
Quand ça va bien.
Quand ça va bien, c'est la normale. Voilà. Après, diabétique, le diabète installé, celui qui n'est pas réversible, c'est quand vous avez deux glycémies. Glycémie, c'est facile. Glucose. Hémie, hématie, le sang. Donc, c'est le taux de sucre dans le sang. C'est pour un peu dédramatiser les mots.
C'est un mot dont on parle souvent, mais qu'on
exactement. Donc, glyc, hémie. Et donc, si vous êtes supérieur à 1,26 g par litre deux fois, à 15 jours d'intervalle, vous êtes diabétique de type 2. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs diabètes, on y reviendra. Maintenant, il y a une zone grise entre 1,05, qui est la bande supérieure de la normale, et 1,26. Cette zone grise, c'est le prédiabète. Et pendant cette période où vous pouvez avoir 1,10 g, 1,15 g, vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucun symptôme, vous n'avez aucun strictement.
Et vous n'êtes pas diabétique.
Et vous n'êtes pas encore diabétique. Il y a une chose, c'est que 70% des prédiabétiques redeviendront diabétiques dans les 10 ans. Voilà. 70%. Donc c'est 3 sur 4. C'est beaucoup. Donc il faut. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous êtes prédiabétique, c'est réversible. C'est-à-dire si vous prenez. Si vous prenez les choses par le taureau par les cornes, vous pourrez ne pas devenir diabétique. Alors, c'est quoi prendre le taureau par les cornes? C'est perdre 5 à 7% de son poids. Donc, pour quelqu'un qui pèse 90 kilos, ben, c'est perdre 4-5 kilos, ce qui n'est pas très compliqué. Et pratiquer, surtout pratiquer, 150 minutes d'exercice par semaine. En mouillant la chemise. Parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent « Oui, mais je marche. » Non, non. Marcher, l'homme, il est fait pour marcher. C'est optimisé pour marcher. On consomme. Ça fait marcher le système lymphatique.
Voilà. Attendez, au niveau des discours, on dit aux gens « Si vous marchez un peu vite, c'est bon. Ça considère alors, comme être de l'exercice. » Alors,
oui. Si on fait au-dessus de 6000 pas, en moyenne, eh ben, on maintient sa masse musculaire et surtout son système lymphatique. Mais si on veut accompagner le traitement du prédiabète, et il faut se muscler, retrouver de la masse musculaire. De toute façon, on le sait tous. On a tous fait du sport à 20 ans, et puis les responsabilités, les enfants, le boulot, on en fait beaucoup moins à 40-45 ans. Alors que justement, c'est à ce moment-là où il faut continuer. L'exercice physique, c'est comme un métier. Ça doit être fait comme un métier. Même quand il pleut, qu'on est en novembre, et que c'est pas drôle, et qu'on a autre chose à faire, il faut aller faire son sport. Parce que ça, c'est la clé, vous savez de quoi? C'est la clé d'avoir de belles années de retraite. Parce que ça sert à rien de bosser comme un âne pour avoir une retraite avec une santé difficile.
Et justement, en parlant de ça, il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. Donc, en termes de santé, puisque c'est pas un terme de santé, qu'est-ce que c'est que l'effet
cliquet?
Alors,
l'effet cliquet, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est qu'en fait, je suis pas hypertendu. Clic, je deviens hypertendu. Et quand on est hypertendu, on revient jamais normotendu, sauf avec médicaments. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le diabète. Je suis pas diabétique. J'ai des warnings, il y a des lampes oranges qui s'allument et tout. Je fais rien, j'y pense pas. Clic, je deviens diabétique et après, il n'y a pas de comeback. C'est qu'en fait, l'organisme humain, il est extrêmement résistant. Il résiste. C'est vraiment. Si l'homme règne sur la Terre aujourd'hui, c'est que c'est le champion de l'adaptation. Il s'adapte à tout. On peut vous le mettre dans une fusée, lui faire 5G, le mettre en l'air, le mettre à l'envers, le mettre un truc, le mettre dans une cave. Il résiste. Mais à un moment, l'organisme ne résiste plus et il change et il devient diabétique. Et à ce moment-là, il prend la décision de laisser flotter le sucre dans le sang, de ne plus le stocker parce qu'il n'a plus de place pour le stocker.
D'accord. Et donc ça, et l'effet cliquet, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut plus revenir comme avant.
On peut plus
c'est plus possible.
C'est plus possible, sauf dans... Il y a eu des expériences comme, je crois, une étude qui s'appelle Direct en Angleterre, où on a mis les gens à 800 calories ou à 600 calories, c'est-à-dire à des régimes extrêmement restrictifs. Et à ce moment-là, on a vu des régressions du diabète. Mais c'est très difficile à tenir. Mmh. 600 à 800 calories, c'est s'affamer complètement. Donc, et il faut être surveillé parce que c'est pas...
Je crois qu'ils leur donnaient des barres protéinées ou quelque chose
ils
comme ça.
Ils leur donnaient des sachets hyperprotéinés,
ouais, pour les faire manger 800.
Mais il faut les suivre parce que... Parce
mais que, après, est-ce que vous pouvez faire ça sur la durée, en fait, c'est ça?
C'est exactement, c'est le problème. Mmh. Le problème. C'est pour ça qu'il y a une règle. Et d'ailleurs, si vous lisez les recommandations de la sécurité sociale en termes de traitement de diabète, en premier, c'est règles hygiéno-diététiques. Mmh. D'ailleurs, ce mot un peu barbare, ça veut dire faire un régime et faire d'exercice. Et si échec, alors médicament. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament qu'on prescrit souvent d'emblée quand on a un patient diabétique, eh bien, il devrait venir en deuxième intention. La première chose, c'est prenez-vous en main. Ne laissez pas le diabète entrer dans votre vie. Parce que je rappelle quand même que le diabète de type 2, c'est la première cause de cécité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien, la première cause d'amputation non traumatique, la première cause d'impuissance, la première cause d'insuffisance rénale. Donc, c'est quand même pas drôle, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est, si on est prédiabétique, tout faire pour ne pas le devenir. Et il faut taper fort, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai 1,10 g, bon, bah ça va, allez, machin truc. » Surtout là, on va arriver à des périodes d'été où on se laisse... C'est normal, on a vécu 2 mois de confinement, on est dans une situation qui est quand même compliquée. Je veux dire, on est déconfiné, mais c'est compliqué. Les gens ont du mal à retrouver leur marque, c'est absolument normal. Le monde a changé quand même, le monde a changé dans nos têtes. C'est-à-dire, ce qui était vrai il y a encore 3 mois ne l'est plus aujourd'hui. On ne sait plus vraiment... À quel sens vouer, si je peux me permettre ce terme. Et donc, vous allez vous lâcher. Faut pas vous lâcher, les gars. Faut pas parce que quand on est prédiabétique, faut tout faire pour ne pas devenir diabétique. Et quand on est diabétique, quand vous allez voir votre médecin, il faut qu'il tape fort. On sait aujourd'hui que plus on tape fort au début, plus on remet la glycémie normale, c'est-à-dire qu'on utilise les règles d'hygiénodiététique, le régime, l'exercice physique et quelques médicaments, à ce moment-là, on revient à une glycémie normale. À ce moment-là, on aide son pancréas à continuer à faire sa sécrétion. Et on sait aujourd'hui que plus on traite fort et vite, et mieux ce sera pour les années à venir, et on décale l'apparition des complications.
Alors avant, on parlait pas de prédiabète, on parlait de syndrome de résistance à l'insuline ou d'intolérance au glucose. Vous vous dites qu'il faut parler de prédiabète et que parce que souvent les autorités de médecine ne veulent pas affoler les gens, qu'il faut les affoler en termes de diabète.
Non, c'est pas affolement parce que ce qu'on demande, c'est au fond aux gens d'être responsables de leur propre santé. Le seul vrai capital que vous ayez, ça n'est pas votre compte en banque, c'est votre santé. La seule chose que vous ne pouvez pas racheter, c'est votre santé. C'est un vrai capital. C'est celui qui va déterminer votre vie. Parce que le jour où vous avez une mauvaise nouvelle sur votre santé, tout se casse la gueule. Vous pouvez avoir 10 millions à la banque, ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Donc, pourquoi j'appelle ça prédiabète et pourquoi le mot prédiabète, qui était à la mode il y a 20 ans, qui est tombé insuffisance... Parce que d'abord, vous demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi la résistance à l'insuline? Ça voudrait dire qu'il sait ce que ça veut dire, insuline.
Oui.
L'insuline, l'hormone qui va faire rentrer le sucre dans les cellules et qui va faire stocker le sucre dans les adipocytes lorsqu'on ne les utilise pas. Donc ça n'a aucun sens. Prédiabète, c'est dire, écoutez mon bonhomme, vous avez un prédiabète, vous êtes candidat à cette maladie. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les chiffres sont affligeants. Vous avez aux États-Unis 87 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. En Chine, vous avez 493 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Au Moyen-Orient et dans les Émirats, vous avez à peu près 78 millions de prédiabétiques. Donc, si vous voulez, c'est une pandémie, la vraie pandémie. Je suis désolé de dire ça, on parle du Covid ou de la Covid, je ne sais pas pourquoi on l'a féminisé d'un coup.
Non, c'est normal.
Pourquoi?
Parce que c'est « disease ».
Ah, la Covid disease. Ah, excusez-moi, parce que moi, je suis français. Oui, et c'est vrai, la maladie du Covid.
Voilà, Covid, voilà.
Mais un virus, c'est masculin. Bon, on va pas...
Si vous prenez en anglais, c'est la maladie. Donc, voilà. Disease, donc, c'est la maladie du corona.
Bien, chef. Voilà. Bien. Mais bon, aujourd'hui, vous avez une pandémie qui est le diabète. Mais le diabète, il fait pas peur, vous comprenez ?
C'est
le
ça.
Cancer, il fait peur.
La Covid fait peur.
La Covid fait peur.
Ouais, c'est vrai.
Mais le diabète, il fait peur à personne. C'est une espèce de lente agonie, de lente. Hein, mais tout le monde s'en fiche. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour la prévention du diabète. Ça doit devenir une cause nationale et internationale.
Il y a plus de gens qui meurent des causes du diabète dans le monde aujourd'hui que de la Covid. Hein.
Mais je vais être choquant. On guérit du cancer aujourd'hui. Cancer du sein, 80% de guérison. C'est quand même extraordinaire.
Oui, mais on chronicise le diabète.
Mais on se dit voilà. Et puis alors, c'est la lente escalade. Au début, on vous donne un médicament, et puis après, on vous donne deux médicaments, et puis après, on vous donne trois médicaments, et puis après, on est obligé de passer à l'insuline, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, et il y a un arsenal aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, franchement, en France, si on suit les recommandations, si on a un médecin qui est vraiment sur le pont pour ça, on a tous les traitements. Franchement, en France, on doit pouvoir avoir une action de prévention. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'est le diabète. Il ne faut pas sous-estimer parce que quand on rentre là-dedans... Et puis, c'est la loterie. Hein. Il y a des gens qui vont avoir un diabète pendant 20 ans qui vont faire... Bon, ils vont avoir un peu une baisse de l'acuité visuelle. Ils ont du mal à lire. Pour les hommes, ils ont quelques problèmes d'érection, des problèmes d'irritabilité, de digestion. Parce que quand on a un diabète, on a un problème de digestion. C'est-à-dire que l'estomac ne s'ouvre plus naturellement. Donc, on a des nausées après le repas. Enfin, bon. Mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas penser qu'il va partir parce qu'il ne partira pas.
Bien. Et vous êtes là pour ça, docteur Allouche. Vous pouvez poser vos questions en direct au standard. Au docteur Allouche ce matin, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. 01 53 48 3000. Alors on va parler, bien sûr, on peut parler du prédiabète, mais on peut parler du diabète également. Si vous avez des questions concernant le diabète, vous êtes les bienvenus à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, alors on parle du prédiabète avec le docteur Allouche aujourd'hui. On va prendre vos appels dans un instant au standard au 01 53 48 3000. Je voulais juste que vous nous parliez, docteur Allouche, d'un indice précieux qui est un outil de diagnostic qu'on appelle l'indice OMA.
Ah oui. Alors l'indice OMA, c'est, je suis pas un fanatique de l'indice OMA.
Vous préférez quoi pour calculer la probabilité de
l'insulinorésistance? Parce que souvent, avec l'OMA, c'est plus intéressant lorsqu'il s'agit de patients déjà diabétiques.
D'accord.
C'est-à-dire que ça, chez un patient non diabétique, c'est vraiment une indication parmi 1000. Et je pense que la meilleure indication pour savoir si on a des risques, c'est paradoxal, c'est pas une prise de sang, c'est le tour de taille. C'est-à-dire que prendre un tour de taille et avoir un tour de taille supérieur à 88 pour une femme et supérieur à 98 pour un homme, eh ben, ce sont des indices... qui commencent à être péjoratifs. Parce que on sait que l'inflammation... Parce qu'en fait, le diabète, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est liée à l'inflammation globale de votre organisme. C'est quoi l'inflammation ? L'inflammation, je vais essayer de l'expliquer très, très, très simplement. Lorsque vous avez... lorsque vous mangez du sucre et que vous ne l'utilisez pas, vous ne bougez pas, eh bien, l'organisme, et particulièrement le foie, va transformer ce sucre en triglycéride, en gras. Parce que la bonne façon, stocker le sucre, ça lui prend beaucoup de travail au foie. Alors il en fait une petite partie
si vous dites
en réserve.
Triglycérides, ça fait trois sucres, non ?
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on prend trois éléments de plusieurs milliers de glucose, et on met un glycérol et on fait du triglycéride. Parce que c'est une façon facile à stocker. Où est-ce qu'on les stocke ? Dans des cellules spécialisées qui s'appellent le tissu adipeux, les adipocytes. Adipose, gras, adipeux, on l'utilise en français, il est adipeux, et cytose, les cellules. Donc c'est les cellules qui stockent le gras. Ces cellules, elles ont une vocation. Elles stockent le sucre sous forme d'énergie, parce que si vous êtes poursuivi par un léopard dans la savane, eh ben, il faut trouver cette énergie, il faut la mobiliser. Et puis, elle est aussi là pour donc libérer, stocker et libérer. Lipolyse, je libère, lipogénèse, je stocke. Normalement, un homme, une femme, elle stocke, elle déstocke, elle stocke, elle déstocke. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu un progrès incroyable de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, eh bien, on est plus habitué à stocker maintenant qu'à déstocker. Et à un moment, vous stockez, et les stocks deviennent trop remplis, et quand cette cellule, l'adipocyte, est trop remplie, à ce moment-là, elle commence à souffrir, parce qu'elle est trop pleine, et elle va envoyer des signaux sous forme d'hormones inflammatoires qu'elle envoie au cerveau, en disant, Il y a un truc qui va pas là. Donc, ces hormones inflammatoires, qu'on appelle cytokines, elles ont des noms affreux, TNF-alpha, interleukine 6, interleukine... Et donc, elles vont prévenir le cerveau de l'inflammation. Et votre corps va devenir inflammatoire. Et à ce moment-là, le cerveau, les organes vont prendre, et le foie particulièrement, qui n'arrive plus à stocker, et donc lui va devenir gras, parce que comme il n'arrive plus à stocker à l'extérieur, c'est toujours votre usine de boulons, vous fabriquez des boulons, votre stock de boulons, ben votre responsable logistique, il vous dit, arrêtez de mettre des boulons, je n'ai plus de place, les fenouilles ne peuvent plus passer dans les allées. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on les stocke dans l'usine. Donc le foie se retrouve avec des stocks de gras. Et c'est le foie gras.
On fera une émission sur le foie gras, sur la nage, hein, oui. Docteur Alouche. Alors, on a Ossine, qui est avec nous au 01 53 48 3000. Ossine, bienvenue.
Bonjour, Philippe. Bonjour, docteur.
Bonjour, Ossine.
Alors, par contre, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, Ossine, je veux bien que vous l'enleviez pour qu'on vous entende parfaitement.
D'accord. Et là, vous m'entendez bien ?
Enfin, bien, c'est un bien grand mot, mais on vous entend.
On vous entend, Ossine. Allez-y.
D'accord, très bien. Ben, vous avez répondu partiellement à mon interrogation.
Oui.
Donc, 88 pour une femme et 98 pour un homme.
Exactement. Vous prenez votre tour de taille avec un mètre de couturière que vous mettez. Vous prenez toujours un... Moi, je prends un repère parce que le tour de taille, il est un peu plus bas que le nombril. Moi, pour être sûr, quand mes patients sont en téléconsultation ou choses comme ça, je leur dis, prenez-le au nombril, comme ça on est sûr que c'est toujours la même valeur. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la variation, c'est-à-dire quand ça diminue. La valeur, au bon que ce soit 98 ou 100, on s'en fiche pas, mais ce qui est important, c'est que vous perdiez du ventre. Je pense que il faut bien comprendre que si vous faites de l'exercice physique, vous allez prendre du muscle. Vous savez que le muscle est plus dense que la graisse. Donc, on peut très bien perdre de la graisse et avoir un poids stable parce que c'est remplacé par le muscle. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est le tour de taille qui diminue. Voilà. Si vous avez une balance qui vous permet de voir l'évolution de votre poids une fois par semaine, ça suffit. Et un mètre de couturière, vous savez vraiment où va votre santé. Et si vous perdez un centimètre ou deux centimètres par mois, vous êtes hors d'atteinte.
D'accord. Et par contre, mon épouse se plaint de prendre du poids, mais elle mange beaucoup moins qu'avant.
Oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement là-dedans
Alors,
et c'est pas dû par hasard à cette fameuse maladie, quoi.
Alors, il y a plusieurs raisons pour une femme qui prend du poids. Malgré le fait qu'elle a l'impression de pas manger plus ou même parfois même de manger moins. D'abord, il peut y avoir des causes hormonales. Ça peut être des causes hormonales. Soit donc il faut aller consulter son endocrino ou son gynécologue. Il faut peut-être aussi voir si elle a pas un problème de thyroïde, parce que souvent quand on a une petite hypothyroïdie, on prend du poids, c'est même un signe constant. Et puis ensuite, regardez si effectivement il n'y a pas un problème de début de diabète de type 2. Elle a quel âge, votre femme, Ossine ?
Elle est jeune.
Si elle est jeune, bon...
Il veut pas nous le dire, hein. Vous avez remarqué.
Non, mais c'est probablement, il faut... Voilà, de
32 ans,
c'est jeune.
Ah oui.
Il y a aussi le fait, peut-être, qu'elle a eu des grossesses où elle a pris du poids, qu'elle n'a pas reperdu après la grossesse. Donc, il y a pas mal de facteurs qui peuvent influencer sa prise de poids, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Il faut juste qu'elle aille voir son médecin, qu'il lui fasse un certain nombre d'examens qui sont très très simples, d'avoir une photographie de ce qui se passe, et à ce moment-là, en fonction de ce qu'il y a, soit il y a quelque chose, et à ce moment-là, le médecin va traiter, soit il n'y a rien du point de vue hormonal, et à ce moment-là, il faut qu'elle fasse un régime et qu'elle fasse un peu d'exercice. Et si c'est une jeune maman, vous savez, une jeune maman qui fait de l'exercice, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va montrer, et un jeune papa également, ils vont montrer à leurs enfants qu'ils prennent leur sac de sport deux fois par semaine ou trois fois par semaine, et les enfants, vous savez, même à la crise de l'adolescence, quand ils rejettent tout, ils voient leurs parents faire. Et c'est l'exemple qui fait que eux aussi feront de l'exercice, parce que je suis très inquiet sur nos enfants qui sont souvent devant la télévision, devant leurs jeux vidéo, et je pense que, je vous rappelle, l'homme est fait de 70% de muscles, et que ces muscles, il faut les faire marcher parce que ils envoient des hormones, ils envoient des informations. Imaginez une entreprise où vous avez 70% de votre personnel qui ne travaille pas. Ben, vous auriez quelques petits problèmes. Donc, c'est vraiment un message. Mais pour votre femme, faut pas être inquiet. Elle a 32 ans, elle a aucune raison d'avoir une pathologie. Mais allez, qu'elle aille voir son médecin, qu'elle aille faire ses examens thyroïdiens, ses examens gynécologiques. Et puis après, on verra si effectivement il y a un risque de diabète. Mais 32 ans, ça fait très jeune.
Merci, vous m'avez quand même réveillé là. Vous m'avez envoyé une petite sonnerie. Je voulais reprendre le sport et je pense que il faut que je reprenne le sport de manière à ce que les enfants suivent le pas. C'est très bien ça.
Exactement, bravo Ossine, parce que c'est exactement comme ça que ça marche. On peut pas décider pour nos enfants, oui, va faire du sport, arrête avec ton jeu vidéo, ton machin, ton truc, si soi-même on n'est pas dans cette logique-là. Les enfants, vous savez, souvent, on a l'impression qu'ils rejettent ce qu'on leur dit, mais ils écoutent tout. Les enfants sont pas fous, hein. Les enfants se laissent jamais mourir de faim. Les enfants, ils ont un instinct qui les pousse justement à se garder en vie et en bonne santé. Un dernier point aussi, quand vous faites, parce que souvent on parle, on dit oui, mais je marche, ça suffit. Non, non, ça suffit pas de marcher. Ce qu'il faut, quand on veut un exercice efficace, il faut mouiller sa chemise. Alors, si on est, par exemple, si on a 60 ans, qu'on est fatigué, qu'on a un peu de poids. Au début, ce qu'il faut faire, c'est du fractionné. C'est-à-dire faire une séance de 50 minutes. Pendant 8 minutes, on va faire cool. Et puis pendant une minute, on va y aller. Vous voyez, c'est très important, mais tout le monde doit se remettre à l'exercice.
Bon, vous avez votre ordonnance aussi, hein.
On va suivre tout ça. Merci pour votre émission.
Merci, merci Ossine, bonne journée.
Bonne route, Ossine. Alors, on accueille Anan qui est avec nous au 01 53 48 3000. Anan, bienvenue.
Oui, bonjour docteur Alouche, bonjour Philippe.
Bonjour Anan.
Bonjour.
Ça va et vous ?
Vous allez bien ? Oui, ça va, je vous appelle en fait pour vous remercier, pour vous dire un grand merci. Parce que j'ai eu deux déclics. Le premier déclic, c'était une fois que je vous avais appelé, je vous avais dit que j'étais une grande accro au sucre. J'ai essayé de diminuer, j'ai même diminué de manière très constante le sucre, tout ce qui était apport en sucre. Donc là-dessus, je dirais que merci beaucoup, je vous ai écouté. Vraiment, je vous ai écouté là-dessus. Et le deuxième déclic, ça a été mon papa. Mon papa est un diabétique, ça fait longtemps qu'il est diabétique. Diabétique de type 2. Et il est rentré à l'hôpital il n'y a pas très longtemps pour qu'il fasse un examen d'une semaine à la Fondation Rothschild. Il a fait un examen pour qu'on puisse réguler son sucre. Mais mon papa, il est tellement têtu qu'il se laisse aller, en fait. Mon père, il est en déprime totale. Et ça a été un déclic aussi pour moi pour reprendre le sport, pour me reprendre en main, pour avancer, parce que j'ai peur d'être à 65 ans, d'être comme lui, et j'ai pas envie d'être comme lui. Voilà.
Ben écoutez, bravo, parce que y a la motivation, il y a l'énergie, il y a le besoin justement de ne pas passer par la case maladie, surtout qu'on peut le faire. C'est-à-dire que c'est dans votre témoignage qui est très important et très intéressant, et je vous en remercie, c'est que il suffit de le décider. Un jour, on dit, bon, ben, ça va, c'est vrai, ce que je mange là, j'ai peut-être pas besoin de le manger, peut-être qu'il faut que je rééquilibre la façon dont je mange, peut-être qu'il faut enfin que je prenne un petit déjeuner, il faut que je mange à heure fixe, parce que l'organisme adore la routine, il adore la routine, et les repas d'exception qu'on nous vend tous les jours en disant, mais mangez ceci, mangez cela, c'est pas ça la vie c'est la routine, avec des grands moments de bonheur et des grands moments d'exception, mais ça doit pas être le quotidien.
En tout cas, merci pour votre témoignage, Anan. Salim est avec nous. Salim, bienvenue.
Allô, bon.
Bonjour Salim.
Bonjour Salim.
Bonjour docteur. Bonjour Philippe.
Bonjour Salim.
En fait, ma question tout à l'heure, ce qui m'étonnait, le docteur disait, si on a le diabète, on guérit jamais. Et que moi, je téléphone, on ne sait jamais, il va peut-être me corriger. J'ai un ami qui a contracté le diabète. Il faisait de l'insuline et tout ça. Même à l'âge de, il a commencé à avoir le diabète à l'âge de 15 ans. Et il habite à Lyon, donc on l'a greffé d'un pancréas et ses reins, qui fonctionnait plus, ses reins et le pancréas, on lui a mis un autre. Et maintenant, il est pratiquement presque guéri, quoi. Je pose cette question-là, donc je voudrais un peu.
Oui, Salim.
Qui m'a créé. Comment ?
Oui, ça vous a alerté.
C'est une très bonne question. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous me permettez comme ça d'expliquer qu'il y a plusieurs types de diabète. Il y a le plus fréquent, qui touche 90% des diabétiques, c'est celui qu'on appelle le diabète de type 2. En général, hein, c'est lié à un surpoids, un manque d'activité physique, c'est après 45 ans. En général, parce que par exemple aux États-Unis aujourd'hui, vous avez diabète type 2 chez des enfants, chez des ados de 20 ans. Hein. Maintenant, il y a le diabète de type 1, dont souffre probablement votre ami, qui est un diabète très différent. Il a le même nom, mais c'est pas la même maladie. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que à l'âge de 15 ans, pour eux, peut-être parce qu'il y a eu une infection, parce qu'il y a eu un choc, un stress, il a fait des anticorps contre son pancréas et il a détruit son pancréas. Donc le seul traitement possible à ce moment-là, c'est de faire des injections d'insuline. Et ce diabète est très, il peut être soit doux, soit moyen, soit très agressif, ce qui a été le cas chez votre ami. Et donc ce diabète, vous savez que avec le diabète, il y a une complication, c'est le rein. C'est l'atteinte du rein, et vous l'avez très bien décrit, ils ont dû faire une greffe de rein parce qu'il avait perdu sa fonction rénale. Et c'est, il est vrai aujourd'hui que on fait des injections et des greffes de 10 lots de Langerhans, c'est-à-dire en fait une partie du pancréas, et que ça peut marcher, ça a marché dans le cas de votre ami. Et donc le diabète de type 1, paradoxalement, on peut, dans les 10 ans, penser que entre les pompes à insuline en boucle, ce qu'on appelle en boucle fermée, c'est-à-dire avec capteur de glycémie et la pompe vous fait la dose d'insuline, eh bien, on aura des diabétiques de type 1 qui seront entre guillemets guéris, c'est-à-dire qu'au fond, ils pourront vivre leur vie tranquillement.
Donc, c'est une bonne question.
C'est une bonne question, mais c'est le diabète de type 1, et donc on souhaite longue vie à votre ami.
Une deuxième question, docteur. Là, il s'agit de moi maintenant.
Oui.
Et en fait, moi, je c'est pas que je m'inquiète, c'est-à-dire, je voudrais bien avoir la forme éternelle, comment on va dire ça, c'est normal, on est tous comme ça après.
Tous.
Mais je fais du sport régulièrement, mais je perds jamais de poids. En plus, je sais pas pourquoi. Est-ce que
vous avez quoi? Excusez-moi, je vous ai pas bien entendu.
Je perds jamais de poids.
Vous ne perdez jamais
de poids. Ouais, d'accord. Je perds pas le. Je fais 102 kilos et fais du sport trois fois par semaine.
Et vous mesurez combien? Et vous mesurez combien?
Je mesure 1m84.
1m84, 102 kilos. Bon, vous avez une petite dizaine de kilos en trop. Vous êtes musclé?
Ah oui, un peu, ouais.
Ouais, vous êtes musclé. Vous êtes un troisième ligne de rugby, quoi. Vous avez quand même un sacré gabarit.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Je vais vous dire, si vous voulez, le problème, c'est le rapport. Alors, on se connaît pas, je vous ai pas vu, mais je vais vous donner peut-être un conseil. C'est que, on a aussi une préférence pour les amidons. On mange beaucoup de pain. On mange beaucoup.
Exactement.
Voilà. Ouais. Donc, le pain, si vous voulez, il faut pas le diaboliser. Mais si vous pouvez, par exemple, le manger le matin et éviter d'en manger, je sais que le pain, c'est la base. Mais malheureusement, le pain, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amidon, c'est du sucre. Donc, si on, avant, il y a le siècle dernier, pourquoi le pain était tellement important? C'est que tout simplement, c'était le plat du pauvre. On mangeait du pain, on mangeait ce qu'il y avait à la maison, on se calait, on se remplissait. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, vous, si vous pouvez baisser un petit peu votre quantité de pain et le réserver le matin, et puis ensuite si vous remplacez pendant un petit mois ou deux mois les féculents, c'est-à-dire pommes de terre, riz et pâtes, par des légumineuses, c'est-à-dire pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, que vous cuisez al dente, un peu croquant, vous verrez que vous commencerez à perdre un peu de poids, parce que les légumineuses ont un impact glycémique très inférieur aux féculents. Et donc, si vous faites ça, je suis sûr que vous allez perdre du poids, surtout si vous êtes, si vous faites l'exercice physique.
Et on fait le point à la rentrée, Salim. Les deux mois.
Voilà. Vous me rappelez dans deux mois.
Dans deux mois. On verra où vous en êtes. Merci, Salim. On prendra d'autres questions dans un instant. On parle du prédiabète ce matin avec le docteur Réginald Alouche. Vous pouvez donc poser vos questions au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle du prédiabète avec le docteur Réginald Alouche. Le prédiabète, il faut s'en occuper parce que c'est un stade, vous nous dites ce matin, c'est un stade auquel, eh bien, tout peut redevenir normal.
Exactement. Hein, pour le prédiabète, il peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de se transformer en diabète. Il y a d'ailleurs 30% des gens qui resteront en prédiabète, qui n'auront jamais de diabète. Mais 70% vont devenir diabétiques. Et pendant cette période, on a une forme de réversibilité. C'est-à-dire que si on perd, on sait aujourd'hui, parce que, alors ça c'est des études qui sont sorties il y a une vingtaine d'années, qui ont été validées, revalidées. On sait que si on perd, si on est prédiabétique, c'est-à-dire, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on a une glycémie à jeun, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, compris entre 1,05 g par litre et 1,25 g par litre, deux fois, on est prédiabétique. Si on est prédiabétique, pas de panique. Si on perd 5 à 7% de son poids et si on pratique 150 minutes d'exercice par semaine en mouillant un peu sa chemise, eh bien, on diminue les risques de 57% de devenir diabétique. C'est énorme, énorme. Donc, en fait, je profite de l'occasion qui m'est donnée de parler à ce micro pour dire, si vous avez un prédiabète, occupez-vous-en. Ne vous dites pas, ah ben, je suis pas diabétique pour l'instant, tout va bien. Vous pouvez faire quelque chose et redevenir normal et éviter de devenir diabétique, parce que le diabète, après, c'est la roulette russe. Il y a des diabètes qui vont s'installer, alors ça dépend de l'âge, bien entendu. Plus on l'a tard, entre guillemets, moins c'est grave. Mais si on a un diabète à 45-50 ans, il faut s'en occuper, parce que le diabète va commencer à ronger vos vaisseaux sanguins, il va commencer à ronger votre rein, à ronger vos yeux, à ronger et donc vos nerfs. Donc il faut vraiment tout faire pour éviter ce moment-là. Alors bien sûr, quand on est diabétique, parce que je voudrais pas qu'on vive mes paroles de façon péjorative, aujourd'hui, et c'est une chance pour les diabétiques, aujourd'hui diabétiques, il y a un nombre de médicaments qui sont sortis incroyables, qui sont sûrs, qui sont très efficaces. Et dernièrement, il y a une nouvelle classe thérapeutique qui est sortie, qui existait dans les autres pays, mais qui n'avait pas encore obtenu le remboursement depuis 7 ans en France, et qui sont des produits et des médicaments qui vont protéger le rein. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Ce qu'il faut, c'est s'en occuper.
Linda est avec nous au 01 53 48 3000.
Oui,
Linda.
Bonjour.
Oui, bienvenue.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Voilà, je veux vous poser une question pour ma fille.
Oui.
Elle a 32 ans.
Oui.
Et depuis le mois d'avril, elle est diabétique.
Oui.
Mais elle maigrit trop.
Oui.
Est-ce que c'est normal?
Alors, elle a un diabète de type 1 ou de type 2?
2. Mais elle a eu depuis le mois de janvier et le docteur ne lui a pas dit.
Oui.
Et elle commençait à avoir des malaises et tout ça pendant 2 mois. Et on ne savait pas de quoi. Elle avait son cœur qui battait vite et tout ça.
Oui.
Jusqu'à quand on a refait notre...
Glycémie.
Et c'est là qu'elle lui a dit qu'elle avait diabète depuis le mois d'avril.
D'accord.
Elle a peur. Elle mange pas de sucre, rien.
Oui.
Avant, elle veut manger le fromage et tout ça. Là, maintenant, rien du tout. Elle a peur. Le pain, ni rien.
Oui.
Mais... qui me fait peur parce qu'elle maigrit.
Oui. Alors, il y a plusieurs raisons à son amaigrissement. D'abord, il faut la rassurer. Il faut la rassurer parce que elle a un diabète, elle est diabétique, elle a 32 ans, mais si elle apprend, si elle lit, si elle comprend et si elle a un bon médecin, elle n'a pas trop de risques parce qu'aujourd'hui, il y a de bons médicaments. Ce qu'il faut quand même éviter, parce que ce que j'entends, c'est qu'elle a supprimé tous les sucres, elle a supprimé le gras. Non, non.
Oui.
Il faut qu'elle trouve une routine et un équilibre dans ses apports sucrés. Bien sûr, moi je préfère qu'on choisisse les légumineuses que les féculents. Elle peut réduire un petit peu la quantité de pain, mais il faut pas complètement supprimer les amidons et les sucres, parce que si vous faites ça, à ce moment-là, bien sûr, ça va aider au début, mais vous crevez de faim, vous pouvez avoir des malaises, vous pouvez avoir des hypoglycémies. Donc il faut qu'elle trouve un équilibre, il faut qu'elle voie un nutritionniste ou un endocrinologue ou un médecin qui connaisse bien ce problème-là pour qu'elle équilibre son régime et qu'elle fasse aussi de l'exercice. Parce que c'est un message que j'adresse aux diabétiques, c'est que les muscles, c'est le médicament gratuit que vous avez dans le corps. Quand vous bougez, à ce moment-là, vous allez les muscles vont diminuer la quantité de vacuoles de gras qui sont faites des sucres qui sont stockés dans les muscles et ils vont améliorer les facteurs d'insulino-résistance. Donc c'est vraiment premièrement un pour votre fille, un et pour vous parce que j'entends votre voix. Ne vous inquiétez pas trop. Ce qu'il faut.
Moi aussi, je suis diabétique. Je vais vous poser une autre question pour moi.
Oui, vous êtes diabétique parce qu'il y a souvent des familles de diabétiques. C'est-à-dire qu'on a, quand on a un parent diabétique, on a entre 20 et 30 % de risque d'être diabétique soi-même.
Justement, mes parents, ils n'étaient pas diabétiques.
Oui. Et vous êtes devenu diabétique.
Moi, j'ai un choc, oui.
Bon. Et donc, en tout cas, pour votre fille, je pense qu'à 32 ans, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il y a tout ce qu'il faut en termes de conseils. Et il y a vraiment, aujourd'hui, des médicaments qui peuvent l'aider. Le conseil que je lui donne, quand même, c'est d'y aller, quoi. De traiter très énergiquement au début. Parce qu'on sait que plus on traite énergiquement au début, plus on retarde les effets des complications du diabète.
Alors, Linda, vous avez 3 minutes pour votre question à vous.
Oui, moi je suis diabétique, j'ai trop de poids.
Oui.
je prends des comprimés.
Oui.
Glucophage, je prends un le matin, un le soir.
Oui.
Et pour perdre le poids, elle m'a inscrit une injection.
Oui.
Une fois par semaine.
Oui. Alors, il est probable que donc le glucophage, c'est ce qu'on appelle la metformine, qui est le traitement de base, et elle a raison de vous donner de la metformine. C'est un bon traitement, reconnu, connu. Et là, elle vient de vous donner une injection par semaine. C'est ce qu'on appelle probablement le liraglutide, qui est une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle scientifiquement les agonistes du GLP-1. Et c'est une très bonne, c'est un très très bon traitement parce que elle permet ce traitement et cette injection une fois par semaine permet d'améliorer votre sécrétion, vos sécrétions d'insuline, et surtout en toute sécurité, ça évite les hypoglycémies, et puis aussi ça permet de perdre du poids. Donc
voilà, oui.
C'est un bon traitement.
Pas, mais docteur, quand je fais cette piqûre, j'ai des nausées et j'ai mal à la tête.
Oui, alors il y a effectivement des troubles, intestinaux, gastriques. Il y a des petits effets indésirables. Normalement, elle a dû commencer par une dose à 0,25 puisque ça s'augmente toutes les 6 semaines.
Et un gramme.
Voilà, vous êtes à 1 gramme. Donc il faut aller revoir votre médecin qui fait vraiment bien son boulot, en parler avec elle, et puis je pense qu'elle pourra adapter vos doses. Mais Linda, un point important, c'est que la piqûre, c'est indolore, ça marche super bien aujourd'hui, il y a de bons médicaments, mais c'est à vous aussi de faire le travail. C'est à vous aussi de faire attention à ce que vous mangez.
Je marche pas beaucoup, j'ai mal
voilà.
Je marche pas.
Et ben faites de la faites de la musculation chez vous, allez dans une salle, faites du rameur, faites de l'elliptique, bougez, parce que vous avez 50% de votre problème qui peut être résolu par vos muscles. Parce que sinon, aujourd'hui, vous avez du glucophage,
enfin,
de la metformine.
C'est le serpent qui se mord la queue, parce que vous ne faites pas de sport parce que vous ne pouvez pas bouger, mais vous ne pouvez pas bouger parce que vous êtes trop haut. Enfin, c'est
mais on peut toujours bouger. On peut par exemple, pour commencer son activité physique, on peut faire de la musculation de son torse, par exemple. Faire des mouvements, parce que souvent, surtout chez les femes, il n'y a pas d'épaule, on peut travailler sa musculature du torse, et puis aller faire un peu de tapis tout doucement au début pour pas se casser les genoux, le dos. Il faut aller doucement, mais il faut quand même mouiller sa chemise, et vous verrez au bout de 6 mois, on aura, si vous rappelez dans 6 mois, vous verrez, si vous faites ça, on en reparlera et vous serez heureuse.
Bon, Linda, vous allez mouiller la chemise. Merci pour votre appel. Alors, j'appelle le titre du livre que vous avez écrit, notamment sur le prédiabète. Ça s'appelle Le plaisir du sucre au risque du prédiabète.
Chez Odile Jacob.
Voilà, aux éditions Odile Jacob. Merci, docteur Alouche.
Vous
regardez.
Merci à vous.
Cette émission sur la chaîne YouTube, vous réécoutez le podcast. Et puis, à très bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.